France Culture.
Le journal Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. L'Union européenne en route vers un accord avec les pays du Mercosur, feu vert de Bruxelles aujourd'hui, mais la France, seul pays à voter contre, ne désespère pas de voir le texte suspendu à la fin du mois en plénière au Parlement européen. Sur le terrain, les agriculteurs ne décolèrent pas au volant de leurs tracteurs. Le gouvernement leur a promis des annonces ce soir. Le maire de Kiev dénonce un génocide après une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes sur la capitale ukrainienne la nuit dernière. 4 personnes tuées, la moitié de la ville privée de chauffage. Les Russes qui ont également envoyé un missile hypersonique Oreshnik sur Lviv, à 60 km de la Pologne. Eric Biegala nous parlera de cette arme capable de voler à plus de 12 000 km/h. En Iran, la contestation ne faiblit pas alors que le pouvoir menace ce qu'il appelle les émeutiers. De son côté, de son exil aux États-Unis, le fils du Shah, Reza Pahlavi, a appelé les Iraniens à grossir les cortèges. Des militants du suicide assistés devant la justice, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement cet après-midi. Des peines de prison avec sursis, compte rendu d'audience avec Anne Fauquemberg. Et puis coup de projecteur en fin de journal sur le futur festival de bande dessinée d'Angoulême qui devrait renaître de ses cendres en 2027. Le veto français n'y a rien changé. L'Union européenne a donné son feu vert à l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. Après les tracteurs de la coordination rurale, ce sont ceux de la Confédération paysanne qui ont convergé vers Paris ce matin et mené des opérations escargots sur les boulevards périphériques. Le syndicat agricole soutenu par la CGT et les soulèvements de la terre a dénoncé l'interpellation musclée de 2 de ses porte-parole par des CRS devant l'Arc de Triomphe. Manifestations de tracteurs également ailleurs en France, dans 31 départements, comme par exemple sur le pont de l'Europe qui relie Strasbourg à l'Allemagne et qui a été bloqué. Des actions également en Belgique ou encore en Pologne. À noter ce matin à côté de Tours, 2 collègues journalistes d'ici Touraine ont été insultés, menacés à coups de fourche et même agressés physiquement pour l'un d'entre eux. Agression par 2 agriculteurs sur un point de blocage. Alors pour tenter de calmer la colère, le gouvernement promet plusieurs mesures. Une conférence de presse a lieu en ce moment même au ministère de l'Agriculture. On y reviendra dans notre flash de 19h. La signature de ce texte d'accord avec les pays du Mercosur, combattu sur le terrain et négocié depuis un quart de siècle, est prévue dès lundi au Paraguay, mais il faudra encore ensuite que les eurodéputés le ratifient avant la fin du mois. Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, ce vote prévu à Strasbourg le 20 janvier, c'est un petit espoir pour la France de voir ce texte suspendu.
Oui, l'histoire n'est pas terminée, estime le camp français. Les opposants à cet accord avec le Mercosur comptent bien donner de la voix au Parlement européen. Ils ont été particulièrement échaudés hier et aujourd'hui par la décision du Conseil de supprimer de l'ordre du jour le vote sur une déclaration qui devait accompagner le vote sur le traité en lui-même. Une déclaration qui stipulait qu'aucune application provisoire ne serait possible sans l'accord du Parlement européen. Ce sera donc finalement le cas dès la semaine prochaine, ou celle d'après, une fois signée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, au Paraguay. L'accord commercial commencera donc à entrer en vigueur de manière provisoire. Son entrée en vigueur définitive reste soumise à 2 aléas. D'abord, à la possibilité d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par le Parlement européen, au motif qu'il ne serait pas conforme aux législations européennes, notamment environnementales. Ce pourvoi, s'il est accepté, serait suspensif, ce qui signifie qu'il interromprait l'application du texte pendant toute la durée du recours, 6 mois, peut-être jusqu'à 1 an et demi ou 2 ans. Ensuite, il y aura le vote des eurodéputés sur le texte en lui-même. Et là, rien n'est écrit car les majorités sont devenues très instables au Parlement européen et les origines nationales des députés devraient jouer tout autant que leurs appartenances politiques, avec des Français qui mèneront sans doute à Strasbourg la fronde contre ce projet d'accord commercial à l'unisson de la FNSEA qui prévoit d'ores et déjà de manifester devant le Parlement européen à Strasbourg le 20 janvier prochain.
Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. En Ukraine, la capitale Kiev a subi la nuit dernière une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes. 4 personnes ont été tuées. La moitié des immeubles résidentiels ont été privés de chauffage pour la première fois depuis le début de l'invasion russe lancée en 2022. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a appelé les habitants à quitter temporairement la ville alors que les températures oscillent entre moins 7 et moins 12 degrés. Il explique pourquoi au micro de nos confrères de France Info.
La nuit dernière, c'était une attaque massive. C'était une attaque combinée avec des drones kamikazes, des missiles balistiques, des missiles de croisière, et une attaque massive contre nos infrastructures. En ce moment, à Kiev, en Ukraine, il fait extrêmement froid. Ce soir, il fera moins 12, demain, après-demain, presque moins 20. C'est un génocide. Ils essayent de détruire le soutien de la population, de mettre à bas le moral des habitants et de faire en sorte que les gens gèlent pendant l'hiver. En ce moment, près de 6000 immeubles à Kiev se retrouvent sans chauffage, sans eau ni électricité. Nous ouvrons des points de chauffage en ville. Des commerces restent ouverts pour accueillir le plus de personnes. Mais c'est un énorme défi pour nous. Si vous en avez l'occasion, trouvez un endroit où vous pourrez bénéficier de chauffage et d'électricité. Chez des amis ou peut-être en dehors de la ville.
Vitali Klitschko, le maire de Kiev. Et puis pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a utilisé la nuit dernière un missile hypersonique Oreshnik. Il s'est abattu sur des infrastructures gazières dans la région de Lviv, à une 60aine de kilomètres de la Pologne. Une escalade inacceptable pour les dirigeants français, allemands et britanniques, Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer. Cet engin capable de voler à plus de 12 000 km/h est aussi capable d'être armé d'ogives nucléaires pour aller frapper très loin. Explication en direct d'Éric Biegala de la rédaction internationale de Radio France.
Oui, contrairement à la plupart des missiles de croisière que la Russie envoie quasi quotidiennement sur l'Ukraine, l'Oreshnik a été conçu pour être une arme nucléaire. Une arme de portée dite intermédiaire, c'est-à-dire jusqu'à 5000 km de distance. Il vise donc l'Europe au premier chef. Et d'ailleurs, le tir d'hier soir, vous l'avez dit, a visé la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à une 60aine de kilomètres de la frontière polonaise. Missile balistique, l'Oreshnik est d'abord une fusée à 2 étages dont la course s'effectue essentiellement hors de l'atmosphère. C'est là qu'il vole à près de 12 000 km/h. Juste avant sa réentrée dans l'atmosphère, il se divise en 6 véhicules de rentrée, lesquels portent chacun potentiellement 6 ogives, total 6 x 6. Un seul missile Oreshnik peut envoyer quasiment en même temps 36 bombes nucléaires. Bien sûr, l'engin tiré hier soir n'était porteur d'aucune bombe. Les dégâts occasionnés en Ukraine, les Russes parlent d'une usine d'armement qui aurait été visée, ne sont dus qu'à l'énergie cinétique d'ogives inertes, lesquelles sont arrivées à forte vitesse, mais sans explosion à l'impact. En fait, s'agissant d'armes nucléaires, le tir d'hier était de l'ordre de ce que l'on appelle un signalement stratégique. D'ailleurs, les Russes avaient prévenu les Américains de ce tir, au terme d'un traité passé entre les deux superpuissances durant la guerre froide. En effet, Russes et Américains sont censés prévenir 24 heures à l'avance de tout tir balistique, qu'il s'agisse d'essais ou d'exercices, histoire que ce tir ne déclenche pas immédiatement et inopinément une riposte nucléaire en bonne et due forme, elle. Mais le signalement stratégique d'hier soir n'était pas tant destiné aux Américains qu'aux alliés européens de l'Ukraine. Il est censé démontrer que face à la puissance russe, l'Europe serait bien en peine de se défendre. Reste qu'il existe tout de même en Europe quelques parades pour contrer ces missiles balistiques. Au premier chef, les batteries antimissiles de l'OTAN, dites Aegis, capables d'intercepter un missile durant son vol hors de l'atmosphère. Les Allemands viennent par ailleurs de recevoir un système analogue israélien, l'Arrow-3, qui a fait ses preuves en interceptant lui aussi hors de l'atmosphère plusieurs missiles balistiques iraniens l'année dernière.
Éric Biegala, merci. En Iran, les manifestations semblent prendre de l'ampleur. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution, a accusé les manifestants d'agir pour le compte du président américain Donald Trump. Il a qualifié les manifestants d'émeutiers et affirmé que la République islamique ne reculera pas, alors qu'Amnesty et Human Rights Watch font état d'au moins 28 morts civiles tués dans ces manifestations depuis le début du mouvement. il y a 13 jours. Un mouvement de contestation que Reza Pahlavi, exilé aux États-Unis, le fils du dernier Shah renversé par la révolution de 1979, appelle sur les réseaux sociaux à renforcer. Valérie Krova.
En costume cravate, arborant au revers de sa veste un petit drapeau iranien d'avant la République islamique. Reza Pahlavi parle sur des images de manifestations qui se sont déroulées hier à travers tout le pays.
Je suis fier de chacun d'entre vous qui êtes descendu dans les rues hier soir. À ceux d'entre vous qui hésiteraient encore, rejoignez vos compatriotes vendredi soir et grossissez les rangs des manifestants afin de réduire encore davantage le pouvoir de répression du régime.
À 64 ans, Reza Pahlavi jouit d'une popularité incontestable, mais qu'il est difficile de mesurer en Iran. Depuis que la contestation a repris, il multiplie les interventions médiatiques. Dans une tribune au Washington Post il y a 3 jours, Reza Pahlavi remerciait Donald Trump pour son soutien au peuple iranien. « Le moment fatidique approche », écrit-il. « Les manifestants scandent mon nom. Je n'y vois pas une invitation à prendre le pouvoir, mais une profonde responsabilité. Et de souligner la nécessité pour la nation iranienne de se choisir une figure rassembleuse pour guider la transition de son pays vers un avenir démocratique, un rôle qu'il aimerait endosser. Je me suis porté volontaire pour servir en cette qualité », confie-t-il.
En Suisse, tout le pays était appelé aujourd'hui à un hommage aux jeunes victimes du bar de Crans-Montana. Après l'incendie de la nuit du Nouvel An, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, a affirmé que son pays restait consterné par cet incendie du Constellation qui a fait 40 morts et 116 blessés. Il a appelé les autorités judiciaires à mettre les manquements au grand jour et à les sanctionner. Le couple de propriétaires français de ce bar a été présenté à la justice aujourd'hui et à l'issue de cette audition, Jacques Moretti, le copropriétaire, a été placé en détention préventive. En plein milieu des débats parlementaires sur la fin de vie, le tribunal correctionnel de Paris a rendu cet après-midi son jugement à l'encontre de 12 militants radicaux du suicide assisté qui ont fait de leur procès à l'automne dernier une tribune pour l'aide à mourir, âgés de 75 à 89 ans. Ces adhérents de l'association Ultime Liberté avaient été jugés pour avoir, entre août 2018 et novembre 2020, aidé des dizaines de personnes à acheter sur Internet du pentobarbital, un barbiturique entraînant une mort rapide et sans douleur. Conformément aux réquisitions, ils ont été condamnés pour la grande majorité d'entre eux à de la prison avec sursis. La peine maximale, 10 mois d'emprisonnement avec sursis, revenant à Claude Hury, la fondatrice de l'association. Le compte-rendu d'Anne Fauquemberg.
La présidente prend le temps d'expliquer aux 12 prévenus au casier judiciaire vierge le sens de leur peine. Le tribunal a entendu le débat de société et l'insuffisance des dispositifs en vigueur pour la fin de vie, explique la magistrate. Mais les prévenus ne peuvent pas attendre du tribunal qu'il s'érige en législateur. Elle rappelle que la matérialité des faits, à savoir l'importation, la détention, l'acquisition de pentobarbital ou la complicité de ce délit, a été reconnue par les prévenus. Les peines sont donc modulées en fonction de la personnalité de chacun, de leur conscience, du risque pénal ou encore du risque de récidive, risque jugé élevé par exemple pour le philosophe François Galichet, condamné à 8 mois de prison avec sursis et dont la juge qualifie le positionnement d'extrémiste. Même analyse pour Claude Hury, très impliqué dans les faits, rappelle la présidente, qui considère que la militante s'est affranchie de l'avis médical dans son accompagnement, tout en ayant du mal à fixer des limites claires pour l'accès aux produits létals, notamment en cas de difficultés psychologiques. Un jugement dénoncé par Claude Hury.
Ce qui m'est reproché, je crois, c'est d'avoir créé cette association où on reconnaît à chacun la liberté de disposer de son corps. Il y a très longtemps, hein, au planning, déjà c'était notre revendication, mon corps m'appartient et c'est pas au médecin, c'est pas à la société, c'est pas à la famille même, hein, de dire c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. On n'est pas des délinquants, on a tué personne, on a fait un geste d'humanité.
La militante annonce son intention de faire appel comme la majorité des prévenus afin de continuer à sensibiliser la société à cet accès dit universel au suicide assisté. Lors du procès, l'association a reçu 300 demandes d'adhésion.
Anne Fauquemberg au tribunal judiciaire de Paris. Une guerre de sécession se joue au sein du syndicat patronal des industriels du médicament en France, le LEM. Plusieurs grands acteurs pharmaceutiques français ont annoncé hier soir claquer la porte de cette organisation pour créer un nouveau syndicat plus agile auprès des autorités qui défendraient mieux leurs intérêts. Alors qu'y a-t-il exactement derrière cette scission du plus gros lobby pharmaceutique décryptage, Annabelle Grelier.
Cette fronde patronale serait la conséquence de la politique fiscale et de la régulation du prix du médicament notifiée par les pouvoirs publics dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Si les gros laboratoires bénéficient d'un nouveau système de taxation sectorielle, les laboratoires français tels que Sanofi, dont 30% de la production se trouve sur notre territoire, auraient souhaité un traitement d'incitation. Pour faire valoir le Made in France et les enjeux de souveraineté, une dizaine d'entre eux, Servier, Ipsen, Pierre Fabre, ont donc décidé de monter leur propre syndicat pour mieux défendre leurs intérêts. Un lobby de plus qui ne bénéficie pas aux intérêts des patients, alerte Jean-Louis Perrin de la Fédération des industries chimiques de la CGT.
Il faut se demander aujourd'hui sur quoi on doit se baser pour justifier le prix d'un médicament. Pour nous, au niveau de la CGT, on pense que c'est sur les coûts. Donc on prend en compte les coûts de recherche, les coûts de production et distribution, et c'est comme ça qu'on doit baser le prix du médicament. Sauf que pour se baser sur les coûts réels, ben ça demande de la transparence. Et cette transparence-là, les laboratoires ne la donnent pas. Ils ne le font pas parce qu'ils auraient honte, en fait. Alors c'est sûr qu'on parle de milliards en termes de recherche et en termes de production. Mais derrière, en termes de profit, on parle de dizaines, voire de centaines de milliards. En réalité, ils veulent une libération du marché, quoi. Pour schématiser, ils disent à la sécurité sociale, arrêtez de nous embêter avec des prix fixes et réguliers. Vous inquiétez pas, le prix du marché, on va le maîtriser, laissez-nous faire. Ben, on voit ce que ça donne aux États-Unis.
Les États-Unis, justement, qui accentuent la pression. Donald Trump, qui pour faire baisser les prix des médicaments aux États-Unis, menace d'augmenter les droits de douane de 25%, quand la Chine continue, elle, d'accélérer ses exportations de principes actifs. Dans un contexte international tendu, l'industrie pharmaceutique française veut désormais faire entendre sa voix.
Vous écoutez France Culture, il est 18h16. Il faut tourner la page, c'est le cas de le dire. Ce matin, lors d'une conférence de presse, l'Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême, l'ADBDA et Xavier Bonnefond, le maire Horizon de la ville, ont annoncé la naissance d'un nouveau festival de la bande dessinée dans un an, en 2027. Dès mardi prochain, un appel à projet sera lancé pour permettre à l'association de désigner un nouvel organisateur pour le futur festival, explication de Pierre Ropert.
À quoi ressemblera le festival de la BD en 2027? La réponse à cette question dépend du futur organisateur qui sera sélectionné par l'ADBDA, l'Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême. Pour ce faire, cette dernière s'est renforcée en modifiant ses statuts. Elle comptait jusqu'ici 14 membres. Ils seront désormais une soixantaine, dont un conseil d'administration de 20 membres, avec une majorité d'auteurs et d'éditeurs et une minorité de partenaires publics. Reste donc désormais à désigner un nouvel opérateur. Le profil recherché: un organisateur ayant une grande ambition, une grande connaissance de la bande dessinée, a assuré David Caméo, le président de la DBDA. Il s'agira de valoriser le public et la création, de proposer des expositions de qualité et surtout de pousser le festival encore plus loin sur le plan international. Une fois sélectionné, le futur organisateur opérera sur 5 ans avec la possibilité de prolonger d'un an. Aujourd'hui, les intéressés ont jusqu'au 12 mars pour déposer leur dossier. Les candidats seront auditionnés mi-avril avant le choix final. Compte tenu des délais, le festival 2027 devra cependant rompre avec la coutume. Il ne se tiendra probablement pas en janvier comme le veut la tradition, mais au cours du premier trimestre 2027. Les organisateurs devront aussi peut-être trouver à cette nouvelle mouture du festival un nouveau nom et un nouveau logo, à la fois pour faire table rase du passé, mais également parce que la société 9e Art Plus est à ce jour toujours mandatée pour organiser le festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2027, un contrat qui pourrait bien poser des problèmes juridiques.
Pierre Ropert. Et pendant cette conférence, les élus ont également salué la tenue du Grand Off 2026 qui se déroulera à Angoulême du 29 janvier au 1er février prochain. 150 événements liés à la BD sont déjà prévus. La mort de Sergueï, le dessinateur historique du Monde où il travaillait depuis 45 ans, ce n'était pas un dessinateur politique ou d'actualité, a expliqué le journal, mais plutôt un poète capable de mettre en dessin et de rendre immédiatement lisible des concepts abstraits, des idées universelles et des mondes rêvés. Sergueï avait fui l'Argentine et la dictature du général Videla en 1976. Il est mort à 69 ans. La tempête Goretti qui a sévi la nuit dernière dans le nord-ouest de la France. Deux personnes ont été grièvement blessées. L'EPR de Flamanville a dû être mise à l'arrêt et 320 000 foyers étaient encore privés d'électricité cet après-midi. Une tempête qui s'est évacuée vers le Benelux et l'Allemagne, mais la météo reste perturbée et pour les prochaines heures dans l'Hexagone. De nombreuses averses sur la façade atlantique et de la neige en montagne et des vents violents sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Demain, petite accalmie par l'ouest, mais une journée bien grise et bien fraîche, pluvieuse et neigeuse. Du Grand Est aux Alpes, c'est la fin de ce journal réalisé ce soir avec Alison Vicrobeck. Nicolas Leroulet était à la technique.